BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo.
Au sommaire des pionniers cette semaine, le tête-à-tête avec un vrai pionnier, c'est tout simplement l'écrivain français le plus lu au monde. C'est un vrai producteur de best-sellers, il a fait 24 romans, plus de 50 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est également un pionnier de l'informatique dans la Silicon Valley. Ici, nous aurons le plaisir immense de recevoir Marc Lévy.
Et en deuxième partie d'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs cette semaine. Nous recevons Olivia Egalgui, la cofondatrice et présidente de Wishbook Company, qui vous propose une boîte à souvenirs digital. Elle va vous expliquer. Et puis Arnaud Meozoun, le président de Levia. C'est une solution de cloud français. Et enfin, en dernière partie d'émission, Fred répondra à toutes les questions que vous nous avez envoyées via la page des pionniers sur le site de BFM Business.
Et tout de suite, c'est le tête-à-tête avec Marc Lévy.
Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête.
Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Marc Lévy. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors, tu es l'auteur français contemporain le plus lu au monde, tout simplement. Ton succès littéraire a été quasi immédiat à la sortie de ton... Enfin, même immédiat, totalement immédiat, à la sortie de ton premier roman, Et si c'était vrai. Le manuscrit a même été repris par Steven Spielberg pour faire son film immédiatement à la sortie. Pourtant, tu n'étais pas au Serail, tu as d'abord été un entrepreneur dans la Silicon Valley. C'est une histoire qu'on connaît moins, on en parlera. Alors, tu connais le principe de l'émission, on va reprendre ton parcours et puis on va surtout s'intéresser à tes émotions, tes ressentis, tes apprentissages sur ce chemin incroyable. Et on va essayer de se mettre à ta place et de comprendre comment tu prends des décisions, la manière avec laquelle tu vis et tu avances. Alors, c'est parti. Tu es né en 1961 à Boulogne, bien
oui.
Fort, c'est ça. Si tu devais choisir un mot pour décrire ton enfance, ce serait lequel ?
Rêveuse.
Rêveuse. Et tu as aussi beaucoup bougé, je crois.
Non, enfin beaucoup par rapport à des enfants de militaires. Non, beaucoup. On est parti. J'avais 7 ans, on est parti vivre dans le Midi pour des raisons familiales. Et puis on est revenu, j'en avais 12-13. Et après, je suis parti assez vite, à 23 ans, 24 ans, je suis parti vivre à l'étranger, je suis parti dans la Silicon Valley.
Alors, tu étais rêveur, ça veut dire qu'en classe, tu regardais ailleurs ou est-ce que quand on te parlait, on avait l'impression que tu écoutais ou pas ?
Non.
Donc c'est ça.
Mais si tu veux, dans mon enfance, les sources de distraction étaient... Il y avait deux facteurs. D'abord, les sources de distraction étaient assez limitées. Il n'y avait que la lecture, parce qu'il n'y avait évidemment pas de tablette, pas de téléphone portable. Et la télévision restait quelque chose de très limité. D'abord, il y avait très peu d'émissions. Et puis, c'était très limité en autorisation. Donc, il y avait la lecture, évidemment. Et puis... Moi, je venais d'une génération où le monde des adultes et le monde des enfants étaient très séparés. On parlait à table, mais on parlait pas à table, vous voyez. Puis on dînait pas ou on déjeunait pas tout le temps avec ses parents. Et donc, il fallait s'occuper. Et moi, j'avais découvert dans Le Pouvoir du Rêve une source de voyage et de liberté qui me permettait de me défaire de tous les interdits de l'enfance. Donc oui, j'étais très rêveur. Et aussi, j'étais très rêveur en cours.
Et alors, 18 ans, en parallèle de tes études de gestion et d'informatique à Paris Dauphine, tu entres à la Croix-Rouge. Alors là, c'est un petit peu, justement, là, un retour à une forme de réalité extrêmement concrète. Tu retiens quoi de cette expérience? T'as appris quoi?
En fait, moi, je rêvais d'être médecin et j'en avais pas les moyens. J'en avais pas les moyens intellectuels parce que la sélection se faisait par les mathématiques. Et c'était une matière où j'étais loin d'exceller. Et puis, au moment où, d'entrer en médecine, on est sous le gouvernement Mauroy et ils ont fait passer une loi qui interdit de redoubler l'internat. Ce qui a d'ailleurs provoqué une très très forte hémorragie d'étudiants français en médecine qui ont dû aller continuer leurs études en Belgique avant de revenir en France. Bref. En tout cas, c'était pas dans mes moyens, ni financiers, ni intellectuels. Mais c'était une grande souffrance. Et j'avais la chance d'avoir un cousin qui était, lui... étudiant en médecine et très talentueux et qui m'a accompagné jusqu'à la porte de la Croix-Rouge. Et quand je suis entré à la Croix-Rouge, J'ai découvert ce que je voulais faire. En fait, j'ai découvert une famille et un terrain. Dès ma première garde, ça avait réglé la question identitaire, tu vois, du qui je suis, pourquoi je suis là et à quoi je sers. Et donc c'est une époque assez pionnière, mais très formatrice. Et puis je dois aussi à la Croix-Rouge, finalement, de m'avoir fait toucher du doigt l'esprit d'entrepreneuriat, puisque tout à fait par accident, je vais me retrouver directeur du réseau de secours urbain des Hauts-de-Seine.
Oui, où là, tu es obligé du coup de...
Où là, il y a énormément de matériel, de personnes et de responsabilités à gérer.
Alors justement, niveau entrepreneuriat, dans les années 80, tu t'envoles pour la Silicon Valley. Le mot start-up n'existe même pas encore, en fait.
Non.
Ou à peine. Qu'est-ce que tu trouves en Silicon Valley, là? Tu découvres justement le tout début de l'informatique.
Je suis pas parti par accident, là. Je suis parti parce que j'étais passionné par je sentais que l'arrivée de l'informatique personnelle.
Qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était...
Une rencontre. J'ai eu la chance de faire un stage universitaire à Berkeley, où il y avait un pôle informatique qui était en train de se développer. Il y avait un hall technique assez incroyable et d'une modernité folle par rapport à ce qu'on connaissait en France, dans lequel il y avait 3 salles où se trouvaient une centaine de terminaux. C'était, si ma mémoire est bonne, des Commodore 64. Et un jour, je travaille dans ce hall, un soir très tard, il est 1h du matin, et je suis seul dans la salle, et sur mon écran s'affiche « Bonjour » en anglais.
C'était donc, qui
et donc,
C'était pas l'ordinateur,
non.
C'était quelqu'un.
Ouais, et donc ça fout la trouille, parce que vous voyez, je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Non, mettez-vous dans le contexte, à l'époque, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de portable, il n'y a pas de...
C'est ça.
Et donc je dis mais qui est là? Et la réponse très simple, c'est un autre étudiant, je suis dans la salle d'à côté.
Le premier WhatsApp.
Et là, je sais pas pourquoi, mais je comprends que le monde va changer.
Ouais, ça va basculer.
Mais comme je pense que maintenant, à partir de cette année, l'intelligence artificielle va changer le monde.
Ah oui, là, il y a eu un avec ChatGPT, puis maintenant...
Oui, non, mais ça va.
On voit bien que c'est en train de
vraiment changer le monde. Je ne sais pas comment. Et là, c'était pareil. Je ne savais pas comment. Je me disais, le monde va changer. C'est impossible que tout ne change pas avec cet outil.
Et alors, tu fondes aussi une entreprise, du coup, dans la foulée de traitement d'image qui s'appelle Logitech. Tu rêvais de pouvoir faire plein de choses grâce à l'informatique, notamment réparer les humains. Puisque tu pensais voir la capacité de développer un processeur capable de substituer aux liaisons neuronales et capable de rétablir les liaisons de la moelle épinière. Donc rien que ça, c'était quand même un projet très ambitieux. Tu crées ensuite une autre société. Donc là, tu étais vraiment parti sur un chemin entrepreneurial. Tu montes un cabinet d'architecture.
Oui, alors il faut dire la vérité. Entre les deux, je me retrouve avec mes mains dans les poches et j'ai tout perdu. Hein.
Oui, eh ben, c'est le yo-yo de l'entrepreneur.
Oui, non, mais c'est important. C'est pas, tu vois, il n'y a pas de suite. En fait, oui, il y a quand même un fil conducteur, c'est-à-dire que de la Croix-Rouge et d'avoir été en contact avec des vies brisées par des accidents, naît un projet qui est à l'époque utopique, qui était de me dire, mais peut-être que l'informatique va pouvoir aider à réparer les humains. Et donc, ce qui me fait partir dans la Silicon Valley, c'est l'envie de développer dans la prothèse informatique. Être capable de greffer des bras où un coprocesseur assurerait la liaison entre les nerfs reliés au cerveau et le membre. Et un jour, peut-être, de réussir à greffer dans l'urgence un coprocesseur capable de rétablir les liaisons de la moelle épinière. Alors, c'est une utopie, mais quand Jules Verne rêve d'envoyer un homme sur la Lune, c'est une utopie. Et puis... ça va devenir une réalité. Donc c'était le rêve. Bon, on était sous-équipés, on n'avait pas les moyens de financement pour. Ça va se transformer en recherche, enfin sur le traitement de l'image de synthèse, parce que là aussi on rêvait de mettre au point la première échographie en 3D. Ce qui pour l'époque et les moyens technologiques de l'époque était totalement utopique, mais l'intention y était. Puis après, faute de financement et probablement de talent de gestionnaire, on se casse la gueule. Et donc je rentre en France avec plus rien en poche et même des cautions bancaires au dos, mais aussi un petit garçon qui vient de naître. Donc il faut se mettre à travailler. Donc je pars travailler sur les chantiers. La seule chose que j'ai qui me reste dans mes poches, c'est mes mains. Et Heureusement, j'ai appris à travailler avec et je suis bricoleur. Donc, je pars travailler sur des chantiers où je vais poser des cloisons. Et donc là, je passe assez une époque assez incroyable pour moi parce que je passe de la vie d'entrepreneur dans la Silicon Valley et je deviens ouvrier, poseur-jointeur sur des chantiers à Créteil. Et je vais faire ça pendant un an parce qu'il y a une urgence qui est, j'ai pas le droit au chômage, puisque j'étais entrepreneur. Et donc, bah, il faut que je nourrisse mon enfant, quoi. Donc, voilà, je pars travailler tous les matins. Et puis, il y a une rencontre, avec des, parce que la vie est souvent faite de rencontres et du talent des autres. Et en vivant sur les chantiers, je me rends compte de l'incroyable désorganisation et perte de flux, de matière et d'argent parce que les chantiers sont désorganisés.
Et là, tu te dis, tout ce que je sais en informatique pourrait là, servir avec, à venir oui, amener voilà, un peu d'efficacité
avec,
dans tout
avec
ce...
Avec deux amis, l'un qui est ingénieur et une autre qu'on va rencontrer, qui est une jeune architecte extrêmement talentueuse, on se dit, mais si on informatise le processus de conception des locaux, ça va être une révolution. Et ça va en être une, parce qu'en fait, on va mettre au point un logiciel, on va mettre au point une technique, et en 5-6 ans, on va devenir le premier cabinet d'architecture de bureau de Paris. Et on termine des gros chantiers d'immeubles au moment où Bouygues rend ses devis. Sans rancune. Depuis, ils ont rattrapé le retard. Non, mais vous voyez là aucune. Mais à l'époque, c'est vrai qu'on prend on prend une avance. Ça veut pas dire qu'on est devenu gros comme Bouygues, hein. Mais notre bureau d'études travaille plus vite.
Et donc, tu avais en parallèle quand même, évidemment, l'envie de vivre d'autres expériences. Et tu, en 2000, à 38 ans, tu publies ton premier roman que tu as écrit, donc qui s'appelle « Et si c'était vrai », qui est un succès immédiat, et que tu as écrit aussi parce que, justement, tu avais tellement d'histoires à livrer, mais aussi un peu sous la pression, quelque part, de tes amis qui te disent « Mais tes histoires sont incroyables ». Alors, comment ça se passe, cette arrivée du premier roman?
C'est un accident. C'est-à-dire que, en fait, à l'époque, je suis un papa seul. J'ai toujours mon petit garçon qui est au centre de ma vie. Et le soir, j'avais pris l'habitude de lui raconter une histoire que j'écrivais et qui s'enchaînait. Et puis bon, un jour, il a eu 9 ans et il m'a fait comprendre que la télé était plus intéressante que les histoires de son père. Et ce moment, ces 2 heures que je passais dans mon bureau tous les soirs à lui écrire l'épisode du lendemain, me manque horriblement. Et donc me vient l'idée, non pas du tout d'écrire un livre et de le publier, mais me vient l'idée d'écrire une histoire à l'homme que deviendra un jour mon fils, avec l'idée de lui remettre le manuscrit quand il aura exactement l'âge que j'avais en écrivant l'histoire, et en ayant serait fou que pendant le temps d'une lecture, on ait le même âge et qu'on soit les meilleurs copains du monde. Et donc j'écris, et si c'était vrai, sans aucune préméditation d'écrire un roman. Après, la chance va rentrer en ligne. Et encore une fois, des rencontres avec des gens qui comptent énormément. Ma sœur qui lit le manuscrit et qui me pousse à l'envoyer à un éditeur alors que j'y crois pas. Et ensuite, une femme incroyable, qui est Suzanne Aléa, qui dirige le département des droits étrangers et qui croit tout de suite au manuscrit et qui, avant sa publication, l'emmène à Francfort, à la foire de Francfort, où le manuscrit va être détecté par Spielberg. Et ce qui va lancer ma carrière.
Alors, tu étais loin justement d'imaginer tout ça. Bah, Stéphanie, oui.
Effectivement, on va refaire un peu l'histoire. Marc Lévy, publié en janvier 2000, Et si c'était vrai, est tout de suite placé en tête des meilleures ventes. Depuis, plus de 5 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde. Le roman a été traduit en 44 langues. Et pourtant, avant même ce succès, il y a un homme et une femme qui y croyaient dès le départ. Suzanne Aléa, vous en avez parlé. Elle est à l'époque la directrice des droits chez Robert Laffont. Et pour elle, elle dit « Cette histoire n'a pas de frontières. » Donc, elle met le livre en vedette lors de la foire de Francfort, qui est le grand rendez-vous annuel de l'édition mondiale. À son retour, les demandes de traduction affluent. Et alors que le roman n'est même pas sorti en France, dans la nuit du 20 octobre 1999, Steven Spielberg vous appelle pour vous dire « Je voulais juste vous remercier, c'est la meilleure histoire que j'ai jamais entendue. » Le réalisateur achète les droits sur résumé de votre ouvrage pour le montant record de 2,2 millions de dollars. 2 semaines après la sortie du film Just Like Heaven, c'était en 2005, le film en rapportera 48.
Qu'est-ce que tu ressens quand Spielberg t'appelle à peine le roman publié? C'est comme, tu t'es demandé si c'était vrai?
J'ai jamais trouvé les mots pour dire... parce que c'est à la fois... C'est Spielberg. Et ce qui est particulier, c'est que chez lui, c'est que c'est un homme dont l'humanité est égale à sa notoriété et à son talent. Et donc ça, c'est vraiment important, parce que le contact humain avec lui, c'est quelque chose, tu vois. Tu rencontres pas tous les jours quelqu'un qui dégage ça. Et ce qui va être encore plus marquant pour moi, c'est quand 15 jours après, je le rencontre. Et qu'on passe 3h30 à parler ensemble. Et là, j'ai cette conscience de me dire, je suis en train de vivre un moment inouï dans ma vie, il faut que je mémorise chaque instant.
Et donc, en fait, ce succès éclair aurait pu faire croire que c'était un coup, que c'était un soufflet peut-être qui allait s'essouffler, mais pas du tout, puisque en 23 ans, tu publies 24 romans et t'es devenu, véritablement, au fur et à mesure des années, un producteur de best-sellers. Et comment on passe justement de ce statut quelque part d'avoir immédiatement eu du succès avec un premier roman, et on pourrait presque croire que c'est de la chance, que tu avais une histoire en stock sur tes 38 premières années de ta vie et tu as dit bon, bah, celle-là elle est quand même vraiment bien, je vais la sortir, mais après il faut en trouver d'autres. Comment on passe de ça à en fait justement de manière régulière aller chercher des succès? C'est du travail, j'imagine, c'est de l'imagination, comment tu fais?
J'aimerais pouvoir te répondre. C'est du travail et c'est terriblement instinctif. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout. Il n'y a pas de méthode. J'aimerais qu'il y ait une méthode. J'écris un bouquin sur la méthode. Mais c'est à chaque fois une nouvelle peinture. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours attaqué un roman comme si c'était mon premier roman. Et avec zéro certitude et la peur au ventre. Mais une peur qui provoque le désir, tu vois. La peur que tu as quand tu vas à un rendez-vous amoureux et que c'est le premier rendez-vous amoureux. C'est-à-dire que c'est pas une peur, enfin, elle peut être paralysante, mais c'est une peur, tu vois, qui te donne envie d'y aller, qui te porte, qui te donne tous les espoirs. Et j'ai toujours abordé un roman comme ça.
Alors, et le point commun justement entre tous tes romans, c'est ces émotions-là. Enfin, moi, je me souviens bon, de la première fois où j'ai découvert aussi si c'était vrai. Donc, j'ai ri, j'ai pleuré. Enfin, je pense comme les 5 millions de personnes qui ont acheté le livre. Mais c'est surtout cette émotion-là qui passe par les personnages. Hein, c'est-à-dire que tes histoires, c'est avant tout ancré autour des personnages. Pourquoi ?
C'est une question. Alors ça, tu vois, il y a pas de règle. C'est une question de choix. Tu as des histoires qui sont, comme disaient les Américains, driven, enfin conduites par l'action. Et d'autres sont conduites par les personnages. Donc moi, ma famille d'écriture, c'est d'avoir des histoires qui sont conduites. Ce sont les personnages qui vont provoquer l'action et non, enfin. Et non pas l'action qui va provoquer les personnages, même si ça arrive parfois.
Donc c'est un peu comme dans la vie, c'est-à-dire que tu ne sais pas ce qui va se passer avant.
Non.
Donc tu construis d'abord les personnages, tu te dis, bon, alors lui, il va être comme ci, comme ça, il va penser comme ci, comme ça.
Je ne les construis pas, je les rencontre.
Oui, mais bon, alors tu apprends à les connaître. Donc tu les décris.
Oui, je les rencontre, en fait. Je vais les chercher et je les rencontre. Tu vois, moi, ça, c'est un... J'ai pas souvent de... Enfin, j'ai pas beaucoup de... J'aimerais avoir des trucs, mais j'en ai pas. Mais par exemple, quand un personnage me vient, je peux passer 3 heures à mon bureau et la chose qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe le matin quand elle se lève. Qu'est-ce qu'elle fait ?
T'essaies d'imaginer dans sa vie de tous les jours.
Il faut pas essayer, il faut la voir. Et parce que c'est ça, si tu veux partir à la rencontre de quelqu'un, une fois que tu as passé le premier dîner amoureux, si tu veux qu'il y ait une histoire, il faut que tu poses des questions, il faut aller à la rencontre de l'autre.
Mais tu fais ça avec tous les gens que tu rencontres dans la vie de tous les jours ? Par exemple, parce que quand...
J'ose pas demander, tu vois, j'aurais pas osé demander à madame qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner. Mais si une femme devient un personnage de roman, j'ai cette position de me dire comment est-ce qu'elle se réveille le matin ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle est en pleine forme ? Est-ce qu'elle est toujours fatiguée ? Est-ce qu'elle mange au petit déjeuner ? Est-ce qu'elle mange seule ? Est-ce qu'elle parle ? Est-ce que c'est une taiseuse ? Est-ce qu'elle est de bonne humeur ? Est-ce qu'elle est de mauvaise humeur ? Est-ce qu'elle est heureuse de commencer sa journée ? Est-ce qu'elle n'est pas heureuse de commencer sa journée ? Parce que tout ce que je viens de te raconter, ce sont les petites choses de la vie. Et ce sont les petites choses de la vie qui sont les genèses des histoires.
Mais malgré cet immense succès auprès des lecteurs, on ne peut pas appeler ça autrement, c'est un succès même planétaire, tu n'as pas échappé à la critique, puisque la critique, elle, était un petit peu différente. Stéphanie.
Effectivement, malgré le succès, immense succès populaire, 50 millions de livres vendus dans le monde, la critique tire à boulet rouge sur vos romans. Cette critique, surtout parisienne, Germano-Pratine, vous accuse de détourner le lecteur de l'essentiel. Plus récemment, Le Figaro a publié un article intitulé « Marc Lévy contre Guillaume Musso, qui est le plus nul ?» Une attaque qui est très mal passée, tant auprès des lecteurs que du milieu littéraire, suscitant indignation et consternation. Une opposition que résume très bien un libraire. En France, on a tendance à éreinter les auteurs qui vendent bien et à donner des prix à des écrivains illisibles.
Il n'y a pas de question dans ce que
vous...
La question, c'est comment on prend la critique. Enfin, quelque part, il y a un côté complètement décalé.
Alors, je vais essayer d'être très rapide sur cette question. D'abord, par rapport à cet article qui a été publié, il y a une chose qui est beaucoup plus importante que tout ce qui peut être dit sur Guillaume ou sur moi. C'est la liberté qu'a eu ce journaliste de pouvoir écrire son article. Et à l'époque où la presse est interdite et sanctionnée dans une très 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 dans un très très grand nombre de pays. Eh bien, moi, je n'aurais souhaité qu'on interdise à ce journaliste, je sais pas qui c'est d'ailleurs, de publier son article. Après, je veux dire, la vulgarité, l'inélégance ou la vacuité du propos, ça lui appartient, ça le regarde, c'est son truc à lui. Mais il a pu le publier, et comme je suis un fervent amoureux de la liberté de la presse, je préfère mille fois qu'il ait publié ça plutôt qu'on lui ait interdit de le publier. Donc ça, c'est pour la réponse sur la chose. La deuxième chose, c'est que quand on parle de la critique, écoutez, quand la critique vous éreinte, elle vous rend un grand service. Soyons humbles deux secondes. Ce qui est finalement le plus attristant quand on s'expose, c'est l'indifférence.
C'est-à-dire que...
Moi, je me souviens, je le racontais en marrant, je me souviens d'une époque où il y avait un grand critique littéraire parisien qui, non seulement posait une phrase vacharde sur moi toutes les semaines dans Le Point, comme si j'étais un peu son obsession, et puis chaque année, à la sortie d'un de mes romans, il écrivait 4 pages pour désinguer le roman. Et moi, je trouvais ça très touchant, parce que, moi, je pensais pas du tout à lui toutes les semaines, et j'aurais jamais passé 4 heures ou une semaine de ma vie pour écrire 4 pages. Donc, critique qui vous désingue, c'est aussi une critique qui vous porte attention.
C'est aussi pour exister quelque part, que tu penses que les critiques parfois justement vont prendre quelque chose qui est extrêmement aimé, populaire, connu, pour aller contre le vent dominant et essayer de s'attirer quelque part du trafic pour eux aussi.
Écoute,
sur leur commentaire.
Ça les regarde, c'est pas à moi de juger de leur intention. En tout cas, moi je sais que la critique m'a rendu un service, parce que finalement, le fait de ne pas faire l'unanimité, c'est une formidable école d'humilité. Et que, bon, bah, écoute, c'est comme ça, quoi. Tu vois, si tu plais à tout le monde en même temps, c'est que t'es assez lisse. Enfin, tu vois, ou alors là, pour le coup, c'est que...
Alors, on a une question de Laetitia Beauvilain pour toi, que tu connais bien.
Bonjour Marc, c'est Laetitia. Est-ce qu'il y a un rêve que tu n'as pas encore réalisé? Et si oui, lequel?
Heureusement. Le jour où j'aurai plus de rêve, qu'on m'éteigne. Donc, non, mais bien sûr qu'il y a, plein de rêves. D'abord, le rêve de continuer à écrire, le rêve d'être surpris, le rêve qu'à la fin de ma vie, mes enfants disent que j'ai été un bon père. Vous voyez, et puis le rêve de garder jusqu'à la fin de mes jours l'étincelle d'humanité que mes propres parents m'ont confié, sans jamais commettre un acte qui l'éteigne. Le rêve de toujours travailler en prenant mon travail très au sérieux, mais sans jamais moi me prendre au sérieux.
T'as aussi un dernier roman qui vient de paraître justement en novembre, toujours aux éditions Robert Laffont. Et tu parlais d'éteindre tout à l'heure. Il s'appelle justement Éteignez tout et la vie s'allume. Est-ce que tu veux en dire quelques mots? Ce qui t'a poussé à écrire ce nouveau livre et ce qu'on y trouve.
Ce qui m'a poussé à écrire, d'abord, c'est une immense envie de tendresse, d'amour et d'optimisme. Mais surtout, c'est un livre où j'ai eu envie de parler de la façon dont on se regarde soi-même et dont le regard qu'on porte sur soi-même change à partir du moment où on se redécouvre dans le regard de l'autre et pas dans le regard des autres. Tu vois, on vit une époque qui n'existait pas dans mon livre où on fait des selfies. Mais le selfie, c'est un renvoi de notre propre image. On peut coller des filtres. Mais se sentir désirable ou indésirable, se sentir jeune ou vieux, se sentir aimable ou mal aimable, se sentir dans l'échec ou dans la réussite, c'est le regard de l'autre qui provoque ce ressentir. Tu peux, quand tu te regardes dans un miroir et que tu regardes tes yeux dans un miroir, tu vois les rides. Mais si quelqu'un te regarde dans les yeux et voit tes yeux, alors les rides s'effacent. Parce qu'il y a une lumière qui se projette sur toi. Et donc, et c'est quelque chose dont on parle très peu. On parle beaucoup de s'aimer soi-même. Et je crois que c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce que c'est dans l'amour qu'on reçoit des autres, qu'on attrape, hein, et qu'on ressent les couleurs de la vie. Et donc, c'est un livre qui parle de ça, qui parle de la rencontre entre une femme qui croit être en train de tourner la dernière page de sa vie de femme, pas de sa vie tout court, mais de sa vie de femme, et un jeune homme qui, lui, tourne les premières pages de sa vie d'homme, et leur rencontre et la façon dont l'un et l'autre se regardent va tout changer, pour l'un comme pour l'autre. Et tous les interdits de la société vont s'effacer devant la puissance de l'émotion que va créer le regard de l'autre. C'est un livre vraiment là-dessus.
Humanité, tendresse, amour, optimisme. Je crois qu'on a résumé d'une certaine manière toute la philosophie qui t'a guidé sur toutes ces années et qui te guide encore. Merci beaucoup, Marc.
Merci à toi.
De nous avoir partagé ces émotions et ces apprentissages.
À vous.
Quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch.
BFM Business présente Les pionniers chez Fred Mazzella, avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Collo.
Les pionniers continuent avec le pitch cette semaine sur le plateau Stéphanie Collo et Agathe Bautier, cofondatrice et directrice générale du Galion, le think tank des entrepreneurs. Alors chaque semaine, on reçoit des pitchers, des pitcheuses, des entrepreneurs, des entrepreneuses qui viennent nous parler de leurs projets et qui nous présentent ce qu'ils font. On leur promulgue quelques conseils. Vous pouvez vous aussi venir candidater, bien évidemment. Pour cela, rien de plus simple, vous pouvez aller directement sur le site de l'émission ou bien simplement scanner le QR code qui s'affiche à votre écran.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Le pitch.
Notre première pitcheuse, Olivia Egalji. Bonjour Olivia, soyez la bienvenue. Vous êtes cofondatrice et présidente de Wishbook Company. Vous allez nous proposer une sorte de boîte à souvenirs digitale. Alors d'abord, je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivront les questions, les conseils. Mais d'abord, c'est à vous, top chrono.
Merci. Tout a commencé avec cette première question. Quel est l'unique secteur qui ne déclinera jamais et qui nous rend tous égaux? C'est la mort. Vaste sujet. Un chiffre, 6,4 milliards d'euros, c'est le montant des assurances vie et des comptes épargne non réclamés par les familles en 2021 et qui sont tombés dans la caisse des dépôts. Vous imaginez? Nous passons notre vie à créer, à construire, à s'émouvoir, à investir et tout ça ne revient pas systématiquement à nos proches. Nous avons créé Wishbook, une plateforme 100% en ligne et hautement sécurisée qui permet à chacun de pouvoir transmettre son héritage global à ses proches et aux générations futures. Un Wishbook possède une valeur juridique qui a été imaginée aux côtés d'avocats, notaires et gestionnaires de patrimoine. Nous sommes lancés à l'été 2021 et nous sommes fiers d'accompagner aujourd'hui plusieurs centaines de Wishbookers qui ont réuni leurs documents essentiels, mais aussi leurs testaments, volontés funéraires, directives, etc., mais aussi leurs souvenirs. Vous l'aurez compris, Wishbook, c'est un acte d'amour pour ses proches, mais aussi pour les générations futures. Nous sommes en train de terminer notre première levée de fonds dans le but de développer les services et également une conciergerie pour accompagner les proches face au deuil.
Merci beaucoup, Olivia Egalji, donc pour Wishbook. Fred, on commence avec tes questions.
Alors, c'est-à-dire, je ne connais pas bien le sujet, mais c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que c'était un service un petit peu standard ou en tout cas proposé par les notaires, non? Et ce n'est pas le cas.
Chez un notaire, vous allez faire exclusivement votre testament? Mais vous n'allez pas parler de vos volontés funéraires, vous n'allez pas forcément souscrire votre assurance vie ou parler de vos investissements autres que du placement immobilier ou Du coup, effectivement, c'est chaque institution une démarche. Un Wishbook permet de tout rassembler sur une seule et même plateforme et est destiné uniquement aux proches qu'on aura désignés.
Alors, de manière très concrète, comment vous garantissez la sécurité justement des données? Parce que j'imagine que vous avez quelques documents assez confidentiels. Et comment vous combinez la sécurité des données avec le partage des informations pour venir quand même se connecter? Parce que, évidemment, le problème, c'est que le moment où il y a un décès, on ne peut plus donner le mot de passe. Donc, il faut l'avoir donné avant. Donc, ça veut dire que c'est une faille de sécurité. Comment vous faites?
Merci de poser la question. C'est effectivement toute la difficulté du sujet. Donc, toute la data est chiffrée de bout en bout. C'est essentiel, la sécurité. On est intransigeant là-dessus. Et on a un système de passe-phrase qui vient sécuriser les coffres Wishbook. En fait, quand un Wishbooker s'inscrit, il désigne trois proches qui sont appelés des gardiens et qui reçoivent chacun leur propre clé de sécurité de la part du gardien, du Wishbooker lui-même, pardon. Nous n'avons aucune sauvegarde des clés de sécurité chez Wishbook. Donc, même en cas d'attaque, en fait, on n'a rien. Les coffres sont vides de notre côté. Et effectivement, c'est uniquement le Wishbooker et ses gardiens qui ont accès. Le gardien n'aura accès au contenu des coffres que sur présentation de cette clé de sécurité et d'un acte de décès authentifié par Wishbook.
Et alors, il y a une histoire de génération aussi. Pour les personnes qui, par exemple, ne seraient pas familières d'Internet, comment vous faites?
C'est un vrai sujet. C'est une quête même pour nous, puisqu'on aimerait s'orienter vers effectivement un public qui a un besoin aussi urgent de transmettre. Je ne parle pas forcément des seniors. On travaille également avec des institutions comme des services hospitaliers, de soins palliatifs, etc., puisqu'il y a un vrai besoin. Dans ces cas-là, voilà, c'est un travail de longue haleine, il faut se faire connaître. On travaille également avec des sociétés qui donnent des cours d'informatique à des seniors. Et on souhaite travailler avec des établissements qui accompagnent les seniors, donc typiquement les EHPAD. Et donc là, ça va nécessiter un autre niveau de sécurité, puisque du coup, il y aura un tiers de confiance au milieu.
Agathe, quelles sont tes impressions sur le pitch d'Olivia?
Olivia, je trouve que tu présentes bien, t'as une posture voilà, où t'arrives, tu te poses, t'es calme.
Merci.
T'as un petit sujet, c'est que tu parles pas très fort. Et donc du coup, ça force un peu l'auditeur à vraiment devoir tendre l'oreille. Donc c'est important à un moment donné que tu trouves le bon créneau. Je sais pas si on te l'a déjà dit.
Bien sûr.
mais voilà, pour moi, ton pitch était maîtrisé. Tu nous as bien expliqué les données du marché. C'est un sujet qui est pas évident, mais t'arrives à le présenter avec le sourire. Je suis pas sûre qu'on ait parlé du prix.
Non.
Et vraiment de comment on accède à Wishbook. Et si on a un peu de temps, j'aimerais bien parler de la concurrence. Si tu en as en France, moi je crois que je connais, je sais pas si c'est vraiment tes concurrents, mais InMemory, est-ce qu'ils font la même chose que toi ou pas?
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait. Alors déjà, dans un premier temps, le site permet d'acheter aujourd'hui son propre Wishbook. Il y a une version do it yourself, donc à faire soi-même. Il n'y a pas d'interlocuteur en face et l'offre est à 199 €. On paye une fois, le coffre est ouvert pour 365 jours, puis la donnée se referme. Et si on veut le réouvrir, on paye 5 € la réouverture pour une semaine. Mais même s'il n'est pas rouvert, de toute façon, il nous appartient jusqu'à la fin. On a une offre à plus de 800 € et qui est proposée, donc là c'est plutôt en B2B, par nos partenaires qui sont des banques privées, gestionnaires de patrimoine, family office, et qui font vraiment office de tiers de confiance et qui vont co-remplir le Wishbook avec leurs clients. Pour ce qui est de la concurrence, comme je disais du coup tout à l'heure, c'est vrai qu'on est encore dans un océan bleu. Je dirais que personne n'a encore trouvé la secret sauce. C'est intéressant. Le sujet est, comme je dis, assez universel finalement. Voilà, tant mieux parce qu'il faut évangéliser le marché, donc c'est bien qu'on soit plusieurs.
C'est une bonne approche.
Toute dernière question, Olivia, comment vous est venue l'idée de créer cette start-up?
Bonne question.
Il nous faudrait une heure, non, je plaisante. Malheureusement, et heureusement peut-être, dans l'ADN de l'homme, il y a un début, il y a une fin, donc on sera tous confrontés à la perte de proches. J'ai été bien sûr confrontée à cela et j'ai un proche qui a eu le temps de se voir partir et a laissé des doléances très claires sur son bureau et on a pu honorer sa mémoire de façon absolument magnifique. C'était un soulagement Vraiment. Et quand je dis que Wishbook est un acte d'amour, c'est vraiment parce qu'on soulage ses proches qui n'auront pas à aller et chercher 36 000 informations à droite, à gauche, auprès de plusieurs institutions, ni d'organiser ces choses-là. Voilà, face au deuil.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivia Egalji. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et la présidente de Wishbook.
Merci.
On accueille désormais notre deuxième pitcher du jour. Il s'agit d'Arnaud Méozone, le président de Levia. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Agathe et Fred. Suivons les questions, les conseils. Mais d'abord, c'est à vous.
Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Méozone, directeur technique et cofondateur de Levia, avec mon frère William. Levia a été fondée... nous avons commencé à travailler sur Levia en 2019... Quand avec mon frère, nous avions un ancien projet et nous cherchions un cloud français sur lequel pouvoir stocker nos données. Nous n'en avions pas trouvé. C'est là que nous nous sommes dit, nous pouvons le créer nous-mêmes. Un cloud français où les serveurs sont en France avec une société française pour éviter de déposer nos données chez nos concurrents américains que l'on connaît tous, tels que OneDrive, Google, Amazon. Donc nous avons fondé Levia en 2020 avec mon frère. Aujourd'hui, nous sommes 15 chez Levia. Nous avons réalisé une levée de fonds en 2022, auprès de Xavier Niel, pour 3 millions d'euros. Je vais présenter la boîte, excusez-moi. Levia, nous sommes spécialisés dans le stockage massif de données. Donc, comment stocker des données, des fichiers, des données au pétaoctet, voire même plus. Nous avons développé une technologie qui nous permet justement de stocker des données massivement. Et aujourd'hui, cette technologie, nous la déclinons sous 3 produits. Donc un drive pour les particuliers et les professionnels. Nous faisons aussi du Nextcloud massif pour des universités ou comme des centres qui viennent nous voir pour stocker des données massivement. Et nous faisons aussi du stockage de type S3. Donc aujourd'hui, on répond à plein de demandes. Donc que ce soit le particulier qui pour deux ou... C'est passé très vite.
Mais on va prolonger notamment avec les questions de Fred.
On a plein de temps pour des questions. Alors, il y a déjà 2-3 petites termes techniques. Alors, on connaissait les kilo-octets, les méga-octets, ouais. Les tera-octets. Alors, il y a les péta-octets. C'est combien un péta-octet?
Alors, on va dire qu'un disque dur aujourd'hui, ce que vous avez sur votre ordinateur, il va être aux alentours du tera-octet. D'accord, c'est environ...
Oui, parce que j'ai oublié, il y a giga entre méga
oui,
et tera.
Oui, il y a giga entre les deux.
Dans l'ordre, c'est kilo... Méga,
enfin c'est octet, giga. Kilo, méga, giga, tera, péta, hexaoctet. Et nous, on est spécialisés, donc nous, on sait stocker des données jusqu'à l'hexaoctet sans aucun problème. Nous avons développé une technologie qui justement nous permet de le faire. Et aujourd'hui, on est en France l'un des seuls acteurs à avoir cette technique capable de répondre, enfin en tout cas d'aller sur le terrain des Américains, donc de répondre à stocker des données massivement. Et on en est très fiers, ben voilà, on est une vraie boîte très technique chez Levia et on en est très fiers.
Alors type S3, ça veut dire quoi?
Dites-moi.
Il y a quoi qui n'est pas compris? Il y avait un type S3.
Ah oui, excusez-moi. Donc oui, ce sont différentes. Donc on a une technologie de stockage et aujourd'hui donc on va avoir du stockage de type drive. Donc là vous pouvez nous voir comme un Dropbox-like, un concurrent à Dropbox, Google Drive, iCloud et ces outils-là. Donc là ça va être plutôt pour les particuliers, les professionnels qui ont besoin de stockage de ou d'outils de télétravail, donc du style fichier. Comment je vais stocker mes fichiers Excel, mes PDF, tout ce que vous voulez stocker facilement, donc sur votre ordinateur, en ligne. Et on va avoir du stockage de type S3. Donc là, ça va être du stockage un peu plus technique, mais là, ça va être pour les administrateurs système qui ont besoin de stocker des données massivement ou par exemple des personnes qui maintiennent des sites web.
Et alors, vos prix sont structurés comment? Vous avez une offre gratuite pour des...
Pour le stockage de type S3, oui, on a un essai gratuit de 15 jours. Et pour le drive, on n'a pas d'offre gratuite, mais on a un essai gratuit, un essai remboursable au bout d'un mois.
Mais c'est fait pour qui? C'est fait pour les particuliers? C'est fait pour les administrateurs système ou c'est fait pour les entreprises?
Ben justement, pour tout le monde. Donc, pour le drive, qui est le produit de base pour Levia, donc ce sur quoi on a commencé, on va avoir des offres qui vont commencer à partir de 2 euros. Et puis ensuite, en fonction de votre
volumétrie. 2 euros par mois?
Oui, 2 euros par mois. Donc là, typiquement, 2 euros par mois, ça va être le particulier qui a juste besoin, par exemple, de sauvegarder ses photos de vacances, qui a besoin de sauvegarder quelques données et qui ne veut surtout pas le faire chez les Américains. Ou par exemple, des mairies qui, aujourd'hui, sont obligées de numériser tous leurs documents, donc cadastre, PLU, tous ces documents-là, et obligées de les stocker dans une entreprise française avec des serveurs en France. Eh bien, aujourd'hui, on est quasiment la seule entreprise à des prix raisonnables, on va dire, où on peut répondre à ces gens-là. Donc ça, ça va être, on va s'adresser.
Donc votre principal différenciateur, c'est le stockage garanti en France.
Oui.
Mais aussi, vous parliez de stockage responsable ou écologique, je ne sais plus exactement les termes.
Oui, bien sûr, bien sûr. On a une forte politique RSE où on va, avec notre technologie de mutualisation, déjà, c'est un peu technique, mais si vous considérez le coût téraoctet stocké carbone utilisé, on est l'un des plus bas, du marché. Donc ça, on est aujourd'hui. Donc nous, on stocke toutes nos données chez OVH et on travaille beaucoup cela avec eux. Et en plus, on va compenser toutes nos émissions de carbone à 200%. Donc via des associations, on va pouvoir racheter, nos émissions de carbone.
Agathe, on passe à tes remarques sur le pitch d'Arnaud.
Arnaud, bravo, parce qu'on sent que c'est pas un exercice que t'as l'habitude de faire. Moi, je connais bien les fondateurs, et souvent, quand on est à la technique, c'est vrai que c'est un exercice qui est pas facile.
Exactement.
Moi, ce que j'aime, c'est que t'es passionné par ce que tu fais, et donc tu nous as quand même passé les bons messages. Je pense que le premier sujet, c'est que Fred, il t'a posé plein de questions techniques.
Oui.
Je pense que Fred connaît la réponse, mais la vérité, c'est que t'es sur une émission grand public et oui. C'est vrai que on connaît pas tous la tech. Voilà, donc il faut que t'apprennes vraiment à vulgariser. Moi, je trouve que t'es bon en pitch pour quelqu'un qui fait de la technique.
Ah, merci.
Non, mais vraiment, juste il faut que tu travailles avec quelqu'un. Je sais pas si c'est ton frère ou quelqu'un qui travaille au marketing ou à la com chez vous, pour qu'elle t'aide à vulgariser un peu, pour que même ta grand-mère ou ton petit frère de 3 ans et demi comprennent ce que tu es en train de dire. C'est vraiment important quand on est sur une boîte très technologique, que le grand public, quand tu passes dans une émission comme ça, comprenne. Parce que Frédéric, Mazella, Xavier Niel, ils comprennent parce qu'ils bossent dans la tech, mais c'est pas forcément le cas de Stéphanie ou de moi. Donc voilà, moi, c'est un peu mon message. Et donc les types S3, etc. Donc vraiment, bosse dessus. Je pense qu'ils peuvent te faire confiance pour aller pitcher. On sent que tu as la passion, comme dirait Fred, quand il y a l'étoile dans les yeux, finalement, ça marche. Et est-ce que pour nos auditeurs, tu peux nous dire comment, pour les téléspectateurs, pardon, comment on lève 3 millions auprès de Xavier Niel? C'est un bon conseil à donner à ceux qui nous regardent.
Vous travaillez pendant 3 ans sur une technologie qui permet de faire en France l'équivalent de ce que font nos amis américains. Je pense que c'est surtout ça qui...
Et comment il te repère? Comment il sait que t'existes? T'étais à 42 ou...
Ah oui, alors on a été repéré au tout début chez OVH, puisque nos serveurs sont chez OVH, donc ils nous ont vus comme une start-up en forte croissance, et donc on a commencé à être repéré par OVH, et à partir de là, dans les discussions qui se sont faites, on a aussi parlé avec des personnes proches de Xavier Niel qui nous ont amenés jusqu'à Xavier Niel, et on l'a vu une dizaine de minutes, on a pitché devant lui et il a trouvé très sympa aussi notre idée.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, Arnaud Méozone. Je rappelle que vous êtes le président de Levia.
Oui.
On suivra de près votre aventure. Merci beaucoup.
Merci Arnaud.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup aussi Agathe d'avoir participé à cette émission. Si vous aussi vous voulez venir pitcher, c'est possible, hein, c'est très simple. Il vous suffit de vous orienter sur le site de BFM Business, sur la page des pionniers, où il y a aussi l'adresse lespionniers@bfmbusiness.fr. Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de cette émission.
Oui.
C'est Fred vous
répond.
C'est
moi qui réponds aux questions.
C'est parti.
Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond.
On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez me transmettre vos questions auxquelles je répondrai sur votre projet, sur votre business, sur l'écosystème, sur la French Tech, sur tout ce qui vous intéresse au niveau professionnel. Je suis là pour y répondre. Et cette semaine, Stéphanie...
Oui, on commence avec la question de Sylvia. Comment trouver son ou ses cofondateurs?
Alors déjà, on peut les trouver partout. Et donc il faut garder un œil ouvert en permanence, hein, et presque avoir un réflexe et se dire qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un qui nous donne l'impression d'être très intelligent, eh bien il faut avoir envie de le recruter. Alors il faut qu'il soit complémentaire après aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que évidemment le fait de recruter des gens très pertinent, très intelligent. Il faut aller trouver des gens qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire. Et ça, c'est pas forcément naturel, parce que des fois, on est plus attiré par des gens avec qui on a des sujets exactement similaires, communs, dont on peut débattre plus facilement parce qu'on a des compétences similaires. Mais en fait, là, il faut vraiment aussi aller chercher des gens qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire du tout. Il faut justement être très attiré par les gens qui ont des compétences complémentaires des nôtres. Et pour les trouver, donc ça peut être dans des cercles informels. Moi, je me souviens que j'ai rencontré Francis Nappé, mon cofondateur sur Blablacar. Je l'ai rencontré autour d'une soirée pizza chez mon voisin. Hein, donc, parce que très souvent, on me demande, est-ce qu'il y a une méthode pour trouver son ou ses cofondateurs? Non. Bon, voilà, Francis, j'ai trouvé autour d'une soirée chez mon voisin. Nicolas Brusson, donc mon autre cofondateur, eh bien, on était ensemble à l'école. Damien Grulier, avec qui j'ai commencé aussi au tout début, c'était pareil, c'était un camarade d'école. Donc il y a, après j'ai eu un autre collègue aussi, Nicolas Deroche, qui nous a rejoint, un ancien collègue. Donc c'est un petit peu toutes les sphères qu'on peut fréquenter, donc dans la vie personnelle, au travail, dans nos études, à un club de sport, pourquoi pas. Enfin voilà, faut avoir l'œil ouvert et recruter les gens les plus intelligents qu'on croise.
On continue avec la question d'Antonio. Quelles sont les conditions demandées par les investisseurs en contrepartie des sommes versées?
Alors, la contrepartie directe, quand un investisseur met de l'argent dans une société, évidemment, c'est qu'il espère que plus tard, il en récupérera plus. Donc, il met 100, puis il veut récupérer plus que 100. Elle va vouloir récupérer 200, 500, 1000, peut-être 10 000 ou 100 000 si c'est vraiment l'investissement du siècle. Donc déjà, ça, c'est quand même une attente de la part des investisseurs. Après, ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même la beauté du schéma aussi, c'est qu'il est également prêt à perdre les 100. Donc c'est le risque, c'est l'histoire du risk-reward, hein, c'est-à-dire la récompense pour le risque pris. Mais les investisseurs sont prêts à tout perdre. Mais ils sont aussi prêts, évidemment, enfin, ils s'attendent, ils espèrent, comme nous, de gagner. Donc c'est important d'aligner tout le monde. Après, il y a des petits principes quand on a reçu de l'argent qu'il faut appliquer. C'est-à-dire que d'abord, il faut savoir apprendre à dépenser de l'argent. Donc il faut commencer petit à petit, c'est un principe de prudence. Ensuite, il y a un principe de petit à petit, ça veut dire qu'on va essayer quelque chose, peut-être avec en déboursant au début 500 ou 1000 euros ou 2000 euros, mais pas tout de suite 10 000 ou 15 000 ou 50 000 si on a levé pas mal d'argent. Et donc, on va essayer, voir si ça marche. Et ensuite, si ça marche, on va l'améliorer et on va pouvoir faire des opérations un peu plus grandes. Ensuite, il y a un principe de redevabilité, c'est-à-dire que je pense que c'est important de se dire qu'effectivement, on doit rendre l'argent un jour, notamment aux investisseurs. Et après, il y a un principe aussi assez simple de séparation des budgets, c'est-à-dire que l'argent qu'on a levé, on peut l'avoir sur un compte, et l'argent courant des dépenses de tous les jours, on peut l'avoir sur un autre compte. Ça, c'est assez pratique parce que ça permet de véritablement voir que combien il reste d'argent par rapport à ce qu'on a levé. Et puis à chaque fois qu'on a besoin d'un peu plus d'argent pour faire tourner justement l'entreprise au jour le jour, on va faire un transfert d'argent, mais on va le voir. Ouais. Puis on va voir que l'argent qu'on a levé diminue. Mais et sur le compte courant, on est en gestion justement plus serrée au jour le jour et on n'a pas une grosse somme qui diminue petit à petit. Ça, c'est sur le compte plutôt de la levée. Alors après, évidemment, généralement, en contrepartie de l'argent levé, les investisseurs demandent à avoir une place au conseil d'administration pour justement être plus proche de la gestion quotidienne de l'entreprise. Ça, c'est parfaitement normal. Enfin, ça dépend des montants, puis ça dépend du nombre d'investisseurs qui veulent être au board. Il faut faire attention à ne pas avoir un conseil d'administration trop grand, parce que sinon, on a de l'inertie, puis on n'arrive plus à prendre des bonnes décisions. Donc, faut avoir un conseil d'administration un peu athlétique et avec juste le bon nombre de personnes et pas trop généralement.
Voilà pour les conseils de Fred. Merci beaucoup, Fred. C'est la fin de cette émission. Mais évidemment, on peut la retrouver en podcast sur le site de BFM Business et en replay également.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Les pionniers chez Fred Mazzella sur BFM Business.